Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Regard et plaisir partagé, plan large sur Ernst Lubitsch en 5 films avec Natacha Thierry et Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Comment ferait Lubitsch, se demandait incessamment Billy Wilder. Il avait même fait broder la formule pour la faire trôner au-dessus de son bureau. Que nous fait Lubitsch? Comment faisait Lubitsch pour nous réjouir toujours autant? Plus de 70 ans après sa mort, plus de Lubitsch, se désolait alors le même Billy Wilder. Pire que ça, lui rétorquait William Wyler, plus de films de Lubitsch. Eh bien, les films de Lubitsch sont toujours là. 5 d'entre eux viennent d'être magnifiquement édités en DVD et en Blu-ray, en copie restaurée haute définition. 5 films qui montrent toute l'étendue de son génie. Un mélodrame pacifiste, le seul drame parlant, tourné par le roi de la comédie, L'homme que j'ai tué. Une opérette avec notre Maurice Chevalier national, Une heure près de toi. Son œuvre la plus courte au sein du film collectif Si j'avais un million, Le greffier, 2 minutes 18, la plus censurée aussi, coupée qu'elle fut pour subversion dans plusieurs pays, et enfin, last but not least, deux chefs-d'œuvre de la comédie sophistiquée, la sex-comédie, apport majeur de leur auteur à l'histoire du cinéma, Sérénade à 3 et La huitième femme de Barbe Bleue. De quoi est faite la fameuse Lubitsch touch? Qu'est-ce qui fait que, pour reprendre les mots de François Truffaut dans Le Gruyère, Lubitsch chien, chaque trou est génial? Pour y répondre, deux éminentes Lubitschiennes, la maître de conférences en esthétique et théorie du cinéma et analyse de films et directrice du département art du spectacle de l'UFR des arts d'Amiens, Natacha Thierry, qui a attaqué le mont Lubitsch par la face sonore, ce qui ne peut que nous réjouir dans une émission de radio avec son livre Lubitsch, les voix V-O-I-X du désir, et Charlotte Garçon qui, il y a 4 mois seulement, nous avait déjà chanté dans une chronique son amour pour Sérénade à 3 et nous parlera cette fois en fin d'émission de deux merveilleuses comédies romantiques qui n'ont pas à rougir face au cinéma de Lubitsch. Elles sont signées du même cinéaste, Léo McCarré. Elles portent le même titre en français, Elle et lui, et pour cause. L'une est l'auto-remake de l'autre à 18 ans de distance et toutes deux sont analysées dans un brillant essai, Elle et lui, 1939-1957, par Fabienne Costa. Et maintenant, place au plaisir, place au spectacle.
Mesdames, messieurs, je vais vous chanter une chanson de mon dernier film, Une heure près de toi. Et la chanson que je vais vous chanter s'appelle... Non, je ne vais pas vous le dire comment elle s'appelle. Vous allez savoir dans une minute comment elle s'appelle. Oh, cette Mitzi! Oh, cette Mitzi! Cette Mitzi, cette Mitzi m'a bouleversé, pourquoi l'ai-je embrassée? Je suis dans une impasse, et quelle impasse! Car l'on m'attend par ici, oui mais par là aussi, et je ne sais plus ce qu'il faut que je fasse. Céder ou résister, partir ou bien rester, je me sens faible tout à coup, mais je ne suis qu'un homme, après tout j'adore Colette, je suis fou de Colette, mais oh, cette Mitzi, je perds la tête dès que j'embrasse Colette, mais oh, cette Mitzi, elles ont chacune des charmes éclatants, je peux pas pourtant aimer l'une et l'autre en même temps, je suis honnête, je veux pas tromper Colette, mais oh, cette Mitzi. Il y a des femmes qui ne se laissent pas fléchir, mais oh, cette Mitzi. D'autres réclament une heure pour réfléchir, mais oh, cette Mitzi. Elle est venue, je l'ai vue, elle m'a plu, c'est une Vénus, avec même quelque chose en plus. Colette est belle, y en a pas deux comme elle, mais Rose est mythique.
Cette Mitzi, c'est bien sûr Maurice Chevalier qui chante à la fois l'amour conjugal et la tentation de l'adultère, comme il vient de le dire. C'est une chanson tirée d'Une heure près de toi, son troisième film avec Ernst Lubitsch en 1932. Une heure près de toi, on va en parler dans un instant. Je l'ai dit en introduction, nous allons nous concentrer aujourd'hui dans plan large sur cinq des films de Lubitsch, ce qui ne nous empêchera pas évidemment d'en évoquer d'autres et pas des moins connus, de Haute Pègre à La Folle Ingénue, en passant par Ninotchka, The Shop Around the Corner ou To Be or Not To Be, sur lequel nous serons amenés fatalement à revenir plus profondément un jour dans Plan Large. Ces cinq films, nous allons en entendre des extraits, comme toujours dans cette émission, mais ça a encore plus de sens que d'habitude, sans doute aujourd'hui, parce que le son des films de Lubitsch en disent déjà beaucoup de son art. Comment est-ce que vous avez eu l'intuition, Natacha Thierry? C'était pour un mémoire de maîtrise, il y a presque 20 ans, sous la direction de Charles Tesson, mémoire devenu depuis un livre, Les Voix du Désir, d'aborder l'œuvre de Lubitsch par sa dimension sonore, celle de la parole en particulier, mais pas seulement.
Je crois que ça a été un mélange entre ce qui m'avait frappé dans l'univers de Lubitsch, le plaisir avec lequel les personnages échangent, se parlent, etc. Et puis mon propre goût pour la parole, pour les mots. Et j'ai le sentiment que ça n'est pas si courant, en fait, dans la comédie américaine, qu'il y a à ce point un soin apporté à l'écriture. Donc non seulement l'écriture scénaristique, mais aussi, enfin scénaristique et esthétique, donc la forme, mais aussi la qualité des dialogues, jusque dans les moments les plus tendus entre les personnages, y compris dans les rapports de force entre les sexes. Même quand les personnages s'insultent, ils se gratifient en même temps, en se disant à quel point c'est bien tourné finalement. Voilà, donc il m'avait semblé que c'était une entrée privilégiée dans la spécificité, la singularité de l'univers lubitschien.
Mais ce qui est très frappant, voilà, c'est que Lubitsch est un grand maître du cinéma muet, avant d'être le cinéaste des comédies sophistiquées, extrêmement loquaces. On va le développer ici. Et c'est quelqu'un qui passe très très bien, très facilement au parlant, sans doute Charlotte Garçon, parce que ses films muets sont déjà très sonores dans ce qu'on voit de l'expression des personnages et même dans ce qu'ils nous suggèrent d'entendre.
Oui, parce que peut-être il y a cette impression de continuité, enfin surtout dans les films, enfin je pense à La Princesse aux huîtres par exemple, des très très grands films muets, donc qui datent de 1919, où finalement le traitement, alors là pour le coup visuel, du détail par exemple, fait ressortir des objets ou des parties, des fragments du corps qui effectivement nous laissent aussi l'impression d'être des mots. C'est-à-dire qu'il y a un côté signifiant de l'image qui fait que on n'est plus dans une grammaire, disons, narrative, où donc cette façon de sertir l'objet fait que on a déjà l'impression d'être dans un monde où tout signifie, où tout fait signe, et donc déjà dans du langage.
Alors ce qui fait signe aussi, et Lubitsch il sera très attentif au fur et à mesure que la qualité sonore des capacités d'enregistrement et de restitution du son dans le cinéma se développeront, c'est le grain de la voix. Vous l'avez raconté dans votre livre, alors pour ces acteurs en général, pour ces actrices sans doute, plus particulièrement Natacha Thierry.
Oui, alors c'est vrai, et d'ailleurs, puisque vous parlez du grain de la voix, Roland Barthes permet d'appréhender très bien aussi les rapports entre les sexes dans le cinéma de Lubitsch. C'est vrai que la tonalité, la tessiture, le grain, le rythme des voix qui sont toutes très très différentes dans son cinéma est quelque chose d'absolument essentiel et qui contribue à la dimension sensuel, sensible, tactile.
Le grain de la voix, c'est presque le grain de la peau chez Lubitsch.
Oui, absolument. Il y a une dimension vraiment tactile des mots, y compris les mots les plus apparemment insignifiants ou anodins, peuvent avoir une espèce de charge érotique extrême. Je pense par exemple au début de Haute Pègre, quand Lily et Gaston se rencontrent, donc Miriam Hopkins et Frédéric March, je crois. Eh bien, ils énumèrent chacun ce qu'ils se sont subtilisés l'un à l'autre, donc des objets usuels. Et cette énumération patiente, précise, une espèce de... Enfin, accompagne la montée du désir entre les deux personnages et vaut, voilà. Et en ce qui concerne, donc, pour y revenir, le grain de la voix, si on pense par exemple à la différence de grain entre quelqu'un comme Miriam Hopkins et Kay Francis ou Janet McDonald, c'est très frappant. Moi, j'ai une affection, une tendresse particulière pour Miriam Hopkins. Donc, je trouve que c'est une actrice absolument prodigieuse. Qui est à la fois très féminine, qui a une grande vivacité, une espèce de force aussi, presque quelque chose d'assez populaire, qui n'hésite, qui passe d'un registre très doux à un registre très heurté aussi dans le grain de la voix. Voilà, et donc. Ce grain est évidemment essentiel et, comme le dit Barthes, il y a vraiment cette dimension tactile des mots chez le Beach. Oui.
Please forgive me, but here I am in the house where he lived. His father, his mother,
his fiancée.
I came here to talk about him, and now, oh God, it's so difficult.
You don't know what it means to us to have you here.
It's just as if you brought Walter back again.
Tell us about him, all about him.
Yes, everything you know.
Everything you remember. Please, how did you meet him?
When did you see him last?
Yes, tell us all about the last time you saw him.
When I saw him, the last time...
He was happy.
Happy? He was very happy.
It was in Paris.
Yes, Paris. We went out together. Two friends.
Yes.
We went out together. We had a great time. Oh, a wonderful time.
On parle de grain de la voix, celui de Lionel Barrymore, c'est quand même pas mal. Alors c'est une sorte d'anomalie dans le corpus dont nous allons parler aujourd'hui. C'est le dernier drame de Lubitsch, son seul drame parlant. Il en a fait beaucoup avant dans le muet, drame historique, il en avait fait aussi beaucoup dans le muet. C'est L'homme que j'ai tué. Alors dans cette scène, les parents d'un soldat allemand mort à la guerre prennent un jeune Français qui vient d'arriver dans leur village, qui est venu pour leur dire que c'est lui qui a tué leur fils, mais ils le prennent pour un ami de leur fils, la fiancée du défunt, elle aussi, et puis le personnage, donc de Paul, il s'appelle, il est joué par Philip Holmes, ne les dément pas, et on est ça va peut-être vous rappeler quelque chose à des spectateurs de cinéma français, puisque c'est la même histoire que Franz de François Ozon, c'est adapté de la même pièce de Maurice Rostand. Bon, on va pas faire injure à François Ozon en lui disant qu'il n'a pas pris exactement les mêmes partis pris esthétiques que Lubitsch dans ce film, parce que ce qui est très frappant, on l'entend ici, c'est une scène de quiproquo. On est dans un ressort qui, en général, est celui du comique, et finalement, ça s'applique très bien au drame aussi, Charlotte Garçon.
Très bien, en tout cas, ça crée quand même une forme de malaise, et on l'entend là dans l'extrait, en fait. C'est-à-dire que il y a vraiment ce dilemme, faut-il aller jusqu'au bout et leur dire qu'il est celui qui a tué leur fils, ou bien faut-il, et on l'entend là, faire le choix de la vie presque. Et ça caractérise vraiment Lubitsch, cette idée que finalement la légèreté doit primer, parce que la légèreté, c'est pas mettre à la poubelle tous les enjeux historiques de la guerre ou quoi, c'est vraiment faire que la survie est possible et que l'oubli soit un oubli enfin positif. Donc c'est mais en fait je trouve qu'il marche quand même sur des œufs, et aussi peut-être parce que lui allemand qui était parti définitivement à Hollywood et qui plus tard là on est en quelle année avec
Donald là on Kidd, est en 1932
il va prendre la nationalité américaine en 36 mais déchu de sa nationalité parce que juif allemand donc c'est finalement le dernier retour au pays natal aussi, donc c'est
oui, on peut y lire en négatif presque l'histoire de Lubitsch lui-même s'intégrant dans la nation américaine et oubliant ses racines, comme ce jeune Français va s'intégrer de manière très étrange en 1919 en Allemagne. Mais ce qui m'a frappé, moi, en voyant ce film, Natasha Thierry, c'est qu'on y retrouve beaucoup d'éléments de cette fameuse Lubitsch touch. Il y a cette façon d'ouvrir un film, par exemple, avec cette scène extraordinaire du défilé commémoratif de l'armistice filmé à travers le moignon d'un estropié, l'alignement des sabres et des bottes dans l'église. Et puis ce moment, alors vous qui vous intéressez au son chez Lubitsch, ce moment où le couple scandaleux se promenant dans le village, un Français avec une Allemande, on est quand même loin de la réconciliation actuelle entre la France et l'Allemagne, va être observé par les commerçants, et on va comprendre sans les voir qu'ils les observent par la cloche, la petite clochette du magasin.
Oui, effectivement. Juste pour revenir à ce que vous disiez juste avant, personnellement, je ne vois pas de choix de la légèreté, en fait, chez Lubitsch. Là, ce qui m'a frappé, alors j'étais peut-être particulièrement réceptive au film, mais j'étais vraiment au bord des larmes du début à la fin du film. Je le trouve absolument bouleversant. J'avais la chair de poule. Et j'ai le sentiment que dans cette scène qu'on a entendue, où le personnage fait le choix finalement de mentir, il leur fait un don magnifique, c'est-à-dire il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Ce sont eux qui lui suggèrent ce qu'il va dire. Ce sont eux qui commencent par dire « Mais donc était-il heureux ?» avec un air tellement, c'est une demande qu'ils lui font. Et il hésite, certes, mais il leur donne ça, il leur fait ce cadeau. Et après, bien sûr, le piège, c'est qu'il est obligé de s'y tenir. Alors, pour revenir à ce moment où, effectivement, les
clochettes,
l'information passe comme ça, aussi d'une fenêtre à l'autre, on peut penser, enfin, cette contagion de la nouvelle, ça me fait penser, moi, beaucoup à Griffith, notamment à travers l'orage, les moments de on avait dit de Lubitsch qu'il était le Griffith européen, par cette espèce de capacité extraordinaire à construire une narration très complexe. Et dans À travers l'orage, on a une scène quasiment identique, hein, où la réputation de cette femme jouée par Liliane Gish est ternie comme ça par le qu'en dira-t-on, les personnes qui se passent le mot. Mais cette ouverture dont vous parliez aussi, elle est extraordinaire. Et là, c'est un des traits de la Lubitsch touch, c'est-à-dire l'espèce de concision extraordinaire, de manière très ramassée, très elliptique, de nous faire entrer comme ça, vraiment, in medias res, en plus dans plusieurs temporalités, puisqu'on est à la fois un an après, on est à la fois en 1919, et on a des images mentales aussi, qui nous reviennent des combats, de la violence de la guerre, avec les sons des bombardements,
suscité par les coups de canon de la célébration, qui font se réveiller d'horreur les estropiés dans l'hôpital.
Exactement, et toute une série de fondus enchaînés qui mélangent ça, et cette fin de l'ouverture absolument saisissante, où on se retrouve dans l'église vide, on croit qu'il n'y a plus personne, et là, finalement, on voit les mains jointes de cet homme, absolument bouleversé de ce qu'il a fait. Soldat pendant la guerre, il a tué un homme, voilà, un Allemand de son âge, un jeune homme de son âge. Et c'est parce qu'il est si tourmenté par ce crime que effectivement il va aller dans le village et essayer de trouver la paix et le pardon auprès de cette famille. Et ce pardon, finalement, il ne vient pas par un aveu, mais il vient par la relation. Et ça n'est pas immédiat, ça aussi c'est très beau, c'est que Lubitsch ne montre pas une famille qui l'accueille d'emblée à bras ouverts, au contraire. Il est d'abord rejeté, assez brutalement, et c'est ensuite qu'il est accueilli, adopté, aimé, et par les parents, et par l'ancienne fiancée de cet homme, de cet Allemand.
Alors malheureusement, votre enthousiasme, Natacha Thierry, n'est pas partagé à l'époque par les spectateurs américains. L'échec commercial est total, je crois que c'est le plus cuisant de son carrière. Il s'agit alors très vite de se remettre en selle.
Ladies and gentlemen, I must talk to you. This is a very delicate situation. There is Colette, and here am I. And I know what you think. Oh, I know. How dare you? You remember that policeman? He was wrong. And so are you. Believe it or not, we are married. I am her husband. And she is my wife. And I can prove it to you. Oh, look. This is a picture of our wedding. Myself and the bridesmaids. And this is my wife. Before the wedding, naturally. And look at this lady. My mother-in-law, a marvelous cook. In other words, I am married and I like it. I'm sorry to disappoint you. Now, gentlemen, as a doctor, let me ask you a personal question. How long since you have been in a park? I mean, with your wife. Ah, ladies, that's what's wrong. Build up your park life to ensure your home life.
Darling.
That's for me. Sweetheart. That's for her. I'll be with you in a minute. That's for both of us. Vive la France.
Vive la France, Maurice Chevalier, l'accent inimitable quand il parle anglais, c'est une heure près de toi, one hour with you, pour le dire à la Maurice Chevalier, on est toujours en 1932, c'est un auto-remake, on va en reparler tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il refait son propre film, Ernst Lubitsch, The Marriage Circle de 1924, il le confie d'abord à George Cukor, puisque Ernst Lubitsch était producteur aussi, un producteur de tous ses films, et parfois des films des autres, et puis très vite, il va reprendre la main sur son film. Alors, les différences entre les deux films sont assez intéressantes à observer, notamment parce que l'action se passe à Paris, dans Une heure près de toi, alors que dans un Marriage Circle, il se passe à Vienne, et peut-être que l'échec du film germanique qu'il venait de faire a joué dedans. En tout cas, on est dans un passage, Charlotte Garçon, où l'opérette, qui était un des grands genres du parlant et des débuts de Lubitsch, est en train de se moderniser et en train de donner ce qu'on appellera après les grandes comédies sophistiquées.
Oui, alors presque toutes ces comédies se passent en Europe, en tout cas. Donc très peu sont situées aux États-Unis où il y a des fragments de Sérénade à trois, mais vraiment on est dans cette Europe de Paramount, hein, c'est qu'il préférait. On connaît la phrase « Je préfère Paris Paramount à Paris France ». Et effectivement, le film « Une heure près de toi » s'ouvre sur une sorte de petit traité du bon mariage et surtout des parcs. C'est-à-dire que la valeur urbanistique et intime des parcs en France fait de la France et de Paris en particulier une sorte de paradis du couple et aussi peut-être en général de paradis de la femme.
Alors il faut préciser que Maurice Chevalier s'est fait pincer avec sa femme dans un parc parce
devant
que
un c'est policier incrédule.
Voilà, par
sûr.
Un policier, c'est les dangers du printemps. Les amoureux vont dans les parcs plutôt dans les cafés, donc ça ruine l'économie touristique de Paris. On envoie la police faire des rafles dans les parcs et là ils ne peuvent pas croire qu'un couple marié s'embrasse dans un parc. Donc c'est Maurice Chevalier qui nous a expliqué, mais si je vous assure, c'est ma femme.
Oui, de même qu'avoir une trop belle lingerie, comme dira Mitzi, la copine de la femme très coquine, elle ouvre le tiroir de lingerie, elle dit « Mais c'est vraiment une lingerie trop belle pour ne la montrer qu'à ton mari. Hein ?»
Et alors, il y a, on parle de Lubitsch Touch, un peu des procédés de Lubitsch. Il y a quelque chose qui est très passionnant chez Lubitsch, vous l'avez relevé évidemment, Natacha Thierry, dans votre livre, c'est la métonymie, c'est-à-dire l'objet qui veut dire autre chose. Alors ici, c'est un nœud papillon qu'on fait, qu'on défait, qu'on redéfait et qui finit accroché sur une cheville féminine.
Oui, effectivement. Alors, Tous les films sont traversés par ces objets très signifiants qui sont des allusions, mais donc qui relèvent de l'implicite, mais qui en réalité sont infiniment explicites pour le spectateur. Et là, effectivement, c'est un nœud un nœud papillon que porte le personnage du docteur Berthier, Maurice Chevalier, qui va être défait. Comme on peut ébouriffer des cheveux, hein. D'ailleurs, je crois que Mitzi a les deux gestes envers lui. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de nouer tout seul son nœud papillon. Donc, si sa femme le surprend avec son nœud défait, c'est le signe et la preuve qu'il a été infidèle. Effectivement, il y a ce moment très savoureux où il prend... le spectateur à témoin, c'est d'ailleurs assez singulier pour être remarqué, ça, c'est que c'est quand même un film dans lequel, à de nombreuses reprises, les personnages, Maurice Chevalier, mais aussi Janet McDonald, prennent à témoin le spectateur, s'adressent à lui directement avec un regard caméra.
Ce qui explicite en fait quelque chose qu'il y a dans tous les films de Lubitsch, mais pas aussi directement, c'est-à-dire que les films de Lubitsch s'adressent
absolument.
Toujours au spectateur. Le spectateur est placé, vous l'avez très bien décrit, dans un état de connivence avec le film.
Oui, oui, c'est vraiment un partenaire, le spectateur est un partenaire et ça participe, bien sûr, ce jeu entre Lubitsch, ces personnages et le spectateur participent du plaisir qu'on prend à ces films et participent aussi de la Lubitsch Touch parmi d'autres éléments, parce que la Lubitsch Touch, c'est pas juste un trait particulier, c'est une combinaison de choses, et c'est parce que c'est une combinaison que personne n'a réussi à égaler Lubitsch. Voilà, et donc pour terminer sur cette séquence où Maurice Chevalier prend à témoin le spectateur, il essaye d'envisager ce qu'il peut faire avec son nœud défait, et il dit bon, soit je retourne vers ma femme, mais elle va comprendre ce qui se passe, soit je vais vers Mitzi, mais voilà, vous avez très bien compris ce qui va se passer, donc l'adultère va avoir lieu, et il conclut en disant bon, il faut quand même que je fasse renouer ce nœud, ce qui est une manière, évidemment, un petit détour pour dire qu'il cède à la tentation, et effectivement, au cas où on aurait pu imaginer que peut-être il n'était pas allé jusqu'au bout, le fait de voir le nœud sur la cheville de Mitzi, ce qui est, voilà, ne laisse plus aucun doute.
D'autant que Mitzi s'est vanté de ses capacités à renouer des nœuds, à canine taille and ho, je sais nouer un nœud. Et comment Pour voir ce condensé de Lubitsch Touch, tous ces éléments, il y a quelque chose de très étonnant dans la carrière de Lubitsch, et ce petit film, hein, riche année que 1932, ce sera aussi celle de Haute Pègre, il faudra un jour faire une émission entière sur ce chef-d'œuvre, mais c'est aussi, donc, je le disais en introduction, l'année du film le plus court de sa filmographie, le moins bavard aussi sans doute de sa période parlante. C'est l'histoire d'un employé de bureau, Phineas V. Lambert, qui reçoit d'un mystérieux bienfaiteur un chèque $1 million. Il n'exprime rien, il se lève de son bureau, il gravit les étages de sa hiérarchie jusqu'à atteindre le bureau de son président.
Mr. Brown. Yes.
Voilà, c'est un film à sketch, hein, dans lequel ce petit film qui s'appelle The Clerk, le greffier en français. Le film à sketch, c'est Si j'avais un million. Et alors, on l'a entendu ici, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, une sorte de pébucal, ça s'appelle raspberry en anglais, mais des sons inarticulés, des onomatopées comme ça, des cris, des borborygmes, il y en a plein en fait dans les films de Lubitsch. Chez Lubitsch, souvent d'ailleurs le verbe est envisagé comme un pur bruit, au-delà même de ce qu'il signifie, Natacha Thierry.
Oui, c'est vrai que les mots ne valent pas forcément par ce qu'ils charrient de sens, mais peuvent être des sons, simplement, et avoir une fonction en tant que telle. Là, dans « Si j'avais un million », un homme très riche, un millionnaire, décide, plutôt que de léguer sa fortune à ses héritiers naturels, si j'ose dire, il décide de faire bénéficier d'un million plusieurs personnes prises au hasard dans l'annuaire, Et donc, dans le sketch fait par Lubitsch, c'est Charles Laughton qui interprète ce greffier. Alors, il est tout gauche, il est jeune. Enfin, c'est pas du tout le Laughton qu'on va voir dans les films par la suite. Et effectivement, ce son assez trivial, presque une espèce je sais pas, je vais à quelque chose d'assez anarchiste, une espèce de provocation comme ça, mais qui n'a pas besoin d'autres commentaires. On comprend que maintenant qu'il est riche, cet homme peut se permettre enfin de dire ce qu'il pense à son patron et dire ce qu'il pense. Ce son trivial suffit à le faire entendre au spectateur. Et effectivement, beaucoup d'autres films sont traversés de ces sons, de ces onomatopées, de ces borborygmes. On peut penser aussi un peu plus subtilement au hoquet de Jill Merleau-Ferrant dans Illusion perdue.
Kicks.
Voilà, elle est affectée d'un hoquet qui en fait est un symptôme de son malaise conjugal, de l'ennui, et donc ce bruit kicks, ça veut, on pourrait le traduire par quick en français. C'est le mari qui fait un geste avec son index sur le ventre de sa femme en lui disant quick comme ça, donc quelque chose d'assez familier, et ça l'exaspère absolument elle, mais elle n'ose pas le lui dire. Et lui croit qu'elle adore ça, donc quiproquo évidemment. Et au moment où le mari veut se débarrasser de l'amant de sa femme, ce pianiste complètement égocentrique, il lui fait croire que sa femme adore... qu'on lui fasse quick. Et donc, il arrive ainsi à se débarrasser de l'amant.
Bonjour.
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 Alors, vous trouvez que ça me ressemble?
Tout à fait.
J'ai l'air aussi bête que ça.
J'en ai peur.
Voyons, mademoiselle. Regardez ce nez.
C'est le vôtre. J'y peux rien.
Enfin, passons pour moi. Mettez-le lui. Vous l'avez bien arrangé. Mais ce n'est pas sa tête, ce n'est pas son crâne.
D'où je suis, c'est tout à fait ça.
Son maxillaire supérieur n'est pas aussi proéminent.
Au contraire, c'est ce qui ressort le plus.
Et le menton.
Exactement le sien.
Trop accentué.
Je le vois comme ça. Et puis, comprenez, monsieur, que ceci est une caricature. Et dites-vous bien que le but d'un dessin ou d'une peinture n'est pas de reproduire une vulgaire photographie, mais de faire ressortir les caractéristiques d'un fasciste, vous selon la personnalité de l'artiste, même en les exagérant. Oh, nuts!
Da, 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 da. Well, baby. The name is Curtis.
May I present Thomas B. Chambers?
My name's Gilda Farrell.
Coming back to the subject of art.
Are you a painter?
Yes.
What did you say your name was?
Curtis.
George Curtis?
Yes.
Il me semble, Charlotte, que nous avions déjà entendu cet extrait hein, quand vous nous aviez parlé de Sérénade à trois. Mais on se lasse pas de l'écouter. C'est la rencontre dans le train, donc en français, entre Gilda Farrell, jouée par Marianne Hopkins, Tom Chambers, Frederick March et George Curtis, Gary Cooper. Et on sent qu'il y a, et on l'entend, nous, ce plaisir de la langue vraiment chez Lubitsch et ce plaisir des comédiens à parler français et ce plaisir de Lubitsch de nous faire entendre toutes les langues possibles. Dans Haute Pègre, je crois qu'on doit entendre 5, 6, 7 langues différentes. C'est un cinéma polyglotte, Lubitsch.
Oui, avec ici, on l'entend « oh, nuts ». C'est vraiment, ça fonctionne comme une sorte de levier, tout à coup, linguistique. On repasse à la langue américaine et c'est pas tout à fait une onomatopée, mais ça fonctionne comme ça, comme un mot-objet qui, tout à coup, fait tomber les masques et on entend le signe de reconnaissance et l'hymne américain en reconnaissance, comme si là, on avait déjà un glissement de régime, enfin, un changement de régime entre ce qui va se jouer entre les personnages, ce qui est compliqué aussi, c'est-à-dire complexifié par le fait que la séquence qu'on passe là est précédée d'une séquence entièrement muette. Donc on a vu déjà, nous spectateurs, on est au tout début du film, mais on a déjà vu énormément de choses. Le triangle, disons, amoureux, c'est pas tout à fait un triangle, parce que un triangle implique des jalousies qu'il n'y a pas toujours dans le film, mais en tout cas, il est déjà posé, il est déjà dessiné hein, dans ce film qui porte aussi le titre du dessin, puisque on l'a entendu, l'un est peintre, mais l'autre, la jeune femme Gilda, est dessinatrice de publicitaire.
Donc
notamment de sous-vêtements.
C'est le double entendre, le double sens du titre anglais du film américain, Design for Living, c'est-à-dire qu'à la fois il dessine ou il peigne pour vivre, et puis il y a ce projet de vie, peut-on vivre à trois? Mais alors c'est pas uniquement un triangle, vous l'avez dit, c'est aussi un quadrilatère, parce qu'il y a un quatrième personnage, et qu'on adore voir dans les films de Lubitsch, c'est le personnage joué par Edward Everett Horton, le roi du slow burn et du double take, celui qui met toujours un temps de retard à comprendre. Et ce que vous montrez très bien dans votre livre, Natacha Thierry, c'est que il est important pour les personnages de Lubitsch de bien s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut le personnage qui rate tout, c'est celui qui n'arrive pas à dire ou qui n'arrive pas à comprendre. Et il y a même cette scène qui parle presque du cinéma de Lubitsch, ce moment célèbre où l'un trouve l'autre en tenue de soirée au petit déjeuner. Donc c'est quand même un signe très clair qu'il est resté pour la nuit, et il se demande alors qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut s'insulter, se cogner, ne rien dire, et on a le choix entre, ils vont le dire, du burlesque, de la comédie de haute tenue ou du mélodrame assommant, comme si les personnages devaient toujours être à la hauteur de leur scénariste et producteur et réalisateur Lubitsch. Il faut savoir bien s'exprimer.
Absolument. Non seulement ça, être à la hauteur, mais aussi il y a vraiment dans ce plaisir à parler, dans cette dimension même érogène de l'écoute, dans cette faculté tactile des mots, ça participe vraiment des rapports de séduction et de désir entre les personnages. Les personnages se désirent d'autant plus et d'autant mieux qu'ils se parlent bien et mieux. Et pas, alors, se parler bien, ça ne veut pas forcément dire se parler gentiment, ça veut dire avoir du style. Voilà, avoir du style, en plus de cette dimension polyglotte dont on parlait. Et là, l'extrait qu'on a entendu, c'est saisissant de voir qu'il y a quand même un registre assez soutenu hein, dans cet échange en français entre Gary Cooper et Miriam Hopkins, qui parlait français d'ailleurs. Ça n'est pas juste quelques mots clichés comme ça, Gay Paris ou je ne sais quoi, qu'on entend souvent dans les films américains. Là, on est vraiment dans un échange très sérieux sur la caricature, etc. Et donc oui, il y a vraiment une dimension érotique, érogène, de la parole, jusque dans ce qui est insultant, et on le voit ça très nettement dans The Shop Around the Corner, la manière dont les personnages sont des épistoliers qui s'ignorent, donc James Stewart et Margaret Sullivan. Donc ils s'écrivent des lettres absolument enflammées et leur désir monte évidemment à mesure que cet échange épistolaire se poursuit. Et à côté de ça, dans la vraie vie, en tout cas dans leur vie d'employés de magasins, ils sont extrêmement agressifs, tendus l'un avec l'autre. Et c'est au moment où les épistoliers et les personnes, les collègues de travail se rejoignent par la parole. C'est au moment où, par exemple, Margaret Sullivan va vanter un portefeuille dans des termes qui vont toucher le personnage Kralik, James Stewart, et inversement, quand lui va vanter auprès d'elle l'usage possible d'une boîte à musique dans des termes choisis, que quelque chose va commencer à s'ébrécher dans ce rapport de force et qu'ils vont être amenés à se désirer autrement.
Il faut savoir parler et surtout ne jamais brûler les étapes.
Oui.
Michael, you've been married?
Yes, but that's all right. My decree's final. Do you mind?
No, I suppose not.
I thought you knew.
You didn't tell me.
Don't you read the American newspapers? It was front page stuff. I thought your father was very well informed about me.
Oh, he only knows about your bank account. And all I know about you is I liked you in a department store. I hated you on a float. And I fell in love with you over a bathtub.
Darling.
Oh, darling. What was her name?
Marjorie. I called her Mug.
Why did you divorce?
Oh, well,
did she do something wrong?
No, she was a little jealous, but there was no reason. I told her I was crazy about Linda.
Linda?
Yes, Linda.
Then why didn't you marry Linda?
I did.
Oh. Now, wait, let me get this straight. You divorced Marjorie because she was jealous of Linda, and you divorced Linda on account of Marjorie.
No, you got it all wrong. You see, I knew Marjorie long before I met Linda.
Yes.
And I was going to marry Marjorie when Elsie popped up.
Huh?
And Elsie... Am I boring you?
Oh, no. No, it's all very interesting. I like to get your point of view. You see, to me, this is a very important step. I happen to believe in marriage.
So do I. Where were we?
Elsie just popped up.
Oh. Say, this may take some time. We better go and have the picture taken.
Michael, in one word, how many times have you been married?
You heard about Henry VIII.
You mean 6 times?
No, 7.
Well, you do believe in marriage. 7 marriages and 7 divorces.
And only 6. One died.
I beg your pardon?
A natural death.
Oh.
On est dans la 8e femme de Barbe Bleue. On a fait un saut dans le temps. Là, c'est Ernst Lubitsch en 1938. Nicole Claudette Colbert vient de découvrir que son fiancé, Michael, joué par Gary Cooper, est un mari compulsif, un serial noceur, qu'il s'est déjà marié 7 fois. Il n'a pas divorcé 7 fois parce qu'il y en a une quand même de ses femmes qui est morte. Alors, c'est un film assez passionnant. On va pas avoir beaucoup le temps de le développer, cette 8e femme de Barbe Bleue, aussi parce que les personnages, on est pas exactement dans la comédie loufoque, on est vraiment dans la comédie pathologique. Les personnages sont atteints de diverses pathologies qui ne seront jamais trop expliquées, justifiées, mais qui vont jusqu'à la démence du langage. Ce qui est très passionnant, c'est qu'à un moment, on ne peut même plus parler et on se met à faire des bruits d'animaux, par exemple, et on finit littéralement en camisole de force, Natacha Thierry.
Oui, effectivement, c'est le cas de Michael, puisque Nicole, après cette révélation quand même assez fracassante, décide que ça ne se passera pas comme ça, qu'elle ne sera pas la 8e d'une longue série. Et donc, elle prétend jouer le jeu, elle prétend accepter le mariage pour mieux se séparer de Michael et lui apprendre quelque chose de fondamental. C'est en fait quelque chose qu'il ignorait totalement, à savoir justement prendre le temps de se séduire, prendre le temps de se désirer, connaître la frustration et apprendre du même coup la conjonction entre le désir et l'amour, puisque Michael au début il semblerait qu'il ait surtout un envie de posséder Nicole comme il possède beaucoup de choses puisqu'il est très riche. Et donc elle lui fait subir toutes sortes de d'épreuves.
Dont un fameux baiser à l'oignon.
Voilà, dont un baiser à l'oignon, sachant que il est absolument, il déteste totalement cette odeur. Et il se retrouve dépressif, interné dans une clinique de force. Et donc c'est dans cette clinique, effectivement, que le père de Nicole, pour pouvoir enfin voir Michael et accéder à lui, ne s'embarrasse pas d'explications. Il pousse un cri d'animal directement, il aboie, je crois, et il est immédiatement intégré dans l'établissement.
Et c'est une sorte de comédie du remariage, même si elle n'est pas dans le canon officiel établi par Stanley Cavell, à qui on rend un hommage, hein, et on a appris son décès mercredi, mais il pourrait tout à fait rentrer dans ce canon.
Oui, avec cette condition. La plupart des comédies sexuelles de Lubitsch sont en fait des comédies de repolygamie et non pas de remariage. Plus exactement, celle-ci parle du mariage, mais vous voyez bien le mariage aussi comme étant multiple. Donc ça reconfigure quand même le mariage. Et puis Claudette Colbert, son entrée, me semble-t-il, dans le film, c'est j'achète le bas, hein, puisqu'elle achète.
C'est le fameux pyjama.
Voilà, j'achète le bas, c'est quand même rentrer dans un film comme ça en tant que femme, c'est quand même brillant.
Mais Claudette Colbert a toujours de bons conseils à donner.
Étude for 5 fingers. Cloister bells. Maiden's prayer. Let me see your underwear. Cloister bells. That's the kind of music you should play. Jazz up your lingerie, just like a melody. There's music when every ribbon has a flowing. mean, let your step-ins have no dull or gray tones. Wear your crepe de chine with some pep in up to date. Hey, hey, tones, jazz up your lingerie, just like a melody. Be happy, choose snappy music to wear. Jazz up your teddy bear.
I wonder if I dare.
Jazz up.
I'll try to.
Jazz.
I'd like to.
Come on.
I mean to.
Wake up, try something new.
That's what I've got to do.
Wake up.
I'll show them.
Ring.
I'll teach them.
Get hot.
I'll try. Tra-la-la-la-la.
Not so hot. It sounds like 1850.
Jazz up your lingerie, brûlez vos corsets mesdames, ou quelques conseils avisés pour devenir une femme adressés à Myriam Hopkins par Claudette Colbert dans Le lieutenant souriant, très réjouissante opérette d'Ernst Lubitsch qui ressortira cet été en copie restaurée. Ce sera le 8 août après un passage au festival de La Rochelle. À La Rochelle, on pourra voir aussi deux films muets de Lubitsch, période allemande, Je ne voudrais pas être un homme de 1918 et puis le génial La princesse aux huîtres. NTB nous avait chanté La grandeur des Lubitsch muets. C'était en novembre dernier dans Plan Large. On n'arrête pas de parler de Lubitsch et on n'a pas fini. Merci Natacha Thierry. Votre livre Lubitsch, les voies du désir a été publié par les éditions du Céphale. On recommande aussi votre photogénie du désir sur le cinéma de Michael Powell et Aymeric Pressburger que vous avez cité déjà tout à l'heure. C'est aux presses universitaires de Rennes et puis toujours sur Lubitsch de notre cher NTBin avec Christian Viviani. Lubitsch tout simplement chez Rivage Cinéma. Les cinq films dont on a entendu des extraits aujourd'hui dans Plan Large. L'homme que j'ai tué une heure près de toi. Si j'avais un million, Sérénade à trois et La huitième femme de Barbe Bleue sont édités en DVD et en Blu-ray, restaurés et en haute définition, sont de très belles copies chez Elephant avec des bonus de Frédéric Mercier. Depuis mercredi, c'est l'été, c'est bientôt les vacances, alors pourquoi ne pas prendre un paquebot? On y fait parfois des rencontres intéressantes.
Je m'en pardonne, madame. Je crois que vous lisez mon télégramme.
Avec pardon.
I say I believe you're reading my radiogram.
Ah, just a moment. Well, how do I know it's yours? Can you identify yourself?
Well, I am Michel Marnet.
Oh, don't tell me you're the fella.
Yeah.
Well, this is pretty personal. Can you tell me what it says?
Well, it says, remembering a warm, beautiful night, a thunderstorm over Lake Como, and you.
And you. It's you. Was it all right, huh?
Mm-hmm.
Was nice.
Thank you.
Do you think it'll ever take the place of baseball?
On ne sait pas de qui on préfère l'accent. Après le French Lover incarné par Maurice Chevalier chez Lubitsch, en voici un autre, Charles Boyer, qui est d'ailleurs lui aussi joué pour Lubitsch. Hein, c'était dans son dernier film, Clooney Brown, La Folle Ingénue. Mais là, on n'est pas chez Lubitsch, on est chez un autre grand de la comédie américaine, Léo McCarré. Charles Boyer face à Irène Dunne, c'est le début de Elle et lui. Alors comment, me direz-vous? Mais Elle et lui, c'est Cary Grant et Deborah Kerr. Eh bien, vous avez raison, et moi aussi. De même, comme on l'a dit tout à l'heure, que Lubitsch refaisait The Marriage Circle avec Une heure près de toi, et puis plus tard, Hitchcock retournant par exemple L'homme qui en savait trop, Léo McCarré a cédé aux joies de l'auto-remake à 18 ans de distance, ce qu'explore finement Fabienne Costa dans un court et passionnant essai chez Yellow No, Elle et lui, 1939-1957, histoire de réconcilier une communauté cinéphile divisée de longue date entre ceux qui préfèrent le noir et blanc en 1.33 au Technicolor en cinémascope ou les sourcils de Charles Boyer à la fossette de Cary Grant. Pour Fabienne Costa, les deux Elle et lui, ce n'est qu'un seul et même film, une œuvre unique. Charlotte Garçon.
Oui, d'ailleurs, Léo McCarré avait beaucoup d'affection pour son propre film de 1939 et c'est lui qui va choisir de le tourner à nouveau après-guerre, presque comme s'il voulait l'offrir à une nouvelle génération de spectateurs. Vous l'avez dit, avec des conditions techniques aussi différentes, le cinéma a évolué et avec tout de même ces nouveaux acteurs. Ça n'est pas rien, et bien sûr, de changer les deux acteurs principaux d'un film. Deborah Kerr, alors on m'a dit, les anglophones m'ont dit qu'on disait Kerr, ce qui m'arrange.
Enfin, c'est très joli. homophonie.
Voilà,
oui.
C'est une homophonie qui est importante pour ce film d'amour. Et donc, Cary Grant, qui dira Léo Macaré, fait toujours ressortir l'humour latent de toutes les situations. Donc voilà, ça change aussi ça. C'est pas seulement le French Lover, là, c'est plus le French Lover, c'est autre chose. On a donc Terry McKay qui n'a pas changé de nom, mais ce Michel au nom français va devenir Nicky Ferrante. Et donc le livre,
un italien plutôt.
Oui, enfin vaguement, parce que sa grand-mère est quand même française, mais sur la Côte d'Azur. Enfin, voilà, tout ça est l'Europe. Hein. On est toujours dans cette Europe comme ça fantasmée. Le livre de Fabienne Costa est une sorte de viatique vraiment. C'est ça aussi. C'est une collection qui est petite, voilà, qu'on emporte avec soi sur un paquebot et qui est sous-titrée d'ailleurs l'un dans l'autre justement. Cette idée de reparcourir ces deux films, de les penser ensemble sans avoir à choisir, à préférer l'un à l'autre, mais quand même en les regardant en miroir. D'où l'importance aussi de l'illustration dans ce livre, c'est-à-dire il y a plusieurs séries de vignettes, de captures des deux films qui sont mises vraiment les unes en face des autres. Et qu'est-ce qu'elles montrent ? Juste visuellement comme ça, de manière assez saisissante, c'est que la place physique dans le plan de elle et de lui y est exactement symétriquement inverse, répartie comme en miroir, à droite et à gauche du champ. Donc voilà, donc c'est l'été sur le transatlantique entre l'Europe et l'Amérique, et on entend dans cette rencontre en plein vent sur le pont du bateau que l'amour s'inscrit d'emblée sous le signe très lubitschien finalement de l'indiscrétion, de la transgression, puisque Terry lit le télégramme très intime et sexuel qui est adressé à ce passager inconnu, hein, « Over the Lake Como and over you ». C'est quand même très physique comme description. Ce sera dans le deuxième, elle et lui, un porte-cigarette. Mais de toute façon, dès ce télégramme ou dès ce porte-cigarette qui en savait trop, le film va être semé de manière très lubitschienne aussi et très délicieuse d'accessoires. Et qui le fétichise presque déjà pour nous spectateurs. Hein, des petits cailloux comme ça sur le chemin de la formation d'un couple. Deux verres de champagne rosé qui sont commandés en même temps sans le savoir. Deux châles, l'un de deuil et l'un de dentelle blanche qui vont jouer un rôle très important, deux chansons qui sont chantées par Terry, puisque c'est sa profession à l'origine. Donc tout ça, c'est des petits jalons qui font que ce livre-là peut aussi être écrit, c'est un choix, c'est un livre écrit en fragments, par fragments, fragments d'un discours amoureux, Bart s'invite encore dans notre conversation, qui glisse de la pure comédie romantique très sophistiquée avec les dialogues qu'on vient d'entendre, avec même des accents burlesques, puisque Macaré a travaillé dans le burlesque muet avec Laurel et Hardy, Charlie Chase, les Marx Brothers, vers une tonalité beaucoup plus mélodramatique et qui donc va passer comme ça de dialogues très savoureux à des moments où le langage, le dialogue est suspendu, bégaye, voilà, et à un final extraordinaire où la compréhension se fait de manière entièrement silencieuse.
Nicky. Oh, I was so worried that you...
I didn't even have time to get dressed. I didn't get to sleep until 5.
I didn't sleep at all.
Oh. Now listen carefully.
Yes.
If everything goes right, and
yes.
I mean for both of us, in 6 months, here, I started to write it out.
Should I read it now? All right. Darling, that's me?
Mm-hmm.
You have a date, my beloved, July the 1st at 5 o'clock. But you don't say where.
Well, you name the place and I'll obey.
I don't know, I can't think. How about the top of the Empire State Building?
Oh, yes, that's perfect. It's the nearest thing to heaven we have in New York.
The 102nd floor. And don't forget to take the elevator.
No, I won't. Darling, if things don't work out...
Don't talk like that. I'm not listening.
But just in case one of
us
is...
We'll both be there. Hold the thought.
Hold the thought. Take care.
Take care.
On l'a entendu, les amants se donnent 6 mois, non pas pour réfléchir avant de se marier, mais en fait pour se fabriquer les conditions de possibilité d'un amour vrai. Ils sont chacun engagés ailleurs, mais pour le confort, on dirait qu'ils ne sont pas sortis de leur zone de confort aujourd'hui. Et en fait, si le deuxième, elle et lui, s'appelle An Affair to Remember, c'est parce que le rôle du souvenir est très complexe et très capital dans ce film, c'est-à-dire qu'il faut se créer des souvenirs pour se constituer comme couple. Alors, ça paraît très conservateur et passéiste comme vision. En fait, c'est beaucoup plus complexe. Il s'agit de se réinventer soi-même. Et le personnage central du film, c'est le personnage de la grand-mère de Nicky, qui va vraiment constituer le couple dans un montage de regard extraordinaire alors qu'elle est au piano, lorsqu'ils font escale et qu'ils vont lui rendre visite sur la colline de Villefranche-sur-Mer. Et qui, elle, vit dans un endroit absolument édénique. Et quand on lui fait remarquer que c'est vraiment un lieu magnifique, magnifique. Janou, la grand-mère, répond « It's a good place to sit and remember ». C'est un bon endroit pour s'asseoir et se souvenir. Et là, évidemment, Léo Macarev vient aussi de donner une définition du cinéma.
Merci Charlotte Garçon pour votre belle voix. Enfin, c'est pas vous qui chantiez, hein. Elle et lui, 1939-1957 de Fabienne Costa est publié aux éditions Yellow Note dans l'excellente collection Côté Film. Et puisqu'on vient d'entendre Terry McKay, c'était elle chantée chez la grand-mère de Nicky Ferrante. Ah, les grands-mères chez Léo Macaré. Je signale qu'on retrouvera un texte de vous sur ce sujet, les grands-mères chez Léo Macaré, Charlotte, dans un ouvrage collectif à paraître chez Capricci et coordonné par l'ami Fernando Ganzo, le rédacteur en chef de notre partenaire Sofilm. L'occasion de la rétrospective de cet été à Locarno, m'étonnerait pas qu'on reparle de Léo Macaré à la rentrée dans Plan Large. Plan Large qui est fini pour aujourd'hui à la prise de son Jacques Hubert. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, dernière de Plan Large pour la saison, nous serons en direct du Festival de La Rochelle, pas pour parler encore de Lubitsch, mais de Bergman, dont on aurait fêté les 100 ans cette année. Nous serons avec la cinéaste allemande Margaret von Trotta, qui lui a consacré un film à la recherche de Ingmar Bergman et puis d'Isabelle Rebre qui sort un livre sur Sarah Bande. Nous serons également avec la cinéaste argentine Lucrecia Martel à qui La Rochelle consacre cette année une rétrospective. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Une vie, une œuvre présentée par Irène Omelianenko.